بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères en islam, nous remercions Allah Rabbul Izza qui nous accepte ce soir pour donner un peu de temps pour apprendre son dîn. Mes chers frères en islam, en plus d'assister à une assemblée religieuse, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de vivre le début de ce mois sacré de Rajab. Dans un hadith, notre prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle que l'année est composée de 12 mois. Minha arba'atun hurum. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. 3 mois qui se suivent, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Muharram. Wa Rajab Mudar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Et séparément des 3 autres mois, il y a un mois qui fait partie des mois sacrés. C'est le mois de Rajab qui se situe entre les deux Jumada et le mois de Sha'ban, Hadith de Bukhari et Muslim. Donc, ikhwani fillah, le fait de prendre conscience que nous sommes dans un mois sacré, ça veut dire que notre comportement, notre façon d'agir doit être différent. Il y a plus de précautions à prendre et il y a plus d'assiduité et de bonnes intentions qui doit habiter notre cœur et qui doit se retrouver dans nos a'mal qu'on va essayer de détailler. Deuxième point à retenir, concernant le mois de Ramadan, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah rappelle que le mois de Rajab, on va dire que c'est un début, c'est une introduction pour le mois de Ramadan. Le mu'min al-kayyis, celui qui est intelligent, celui qui est prévoyant, celui qui recherche un objectif particulier, précis, qui est le contentement d'Allah. Celui qui a compris que le contentement d'Allah passe par al-iltizam, par l'assiduité dans les a'mal, dans la progression, dans l'intention, dans la qualité des actions, ben, ce croyant intelligent, ben, il va prévoir, il va essayer de s'organiser dès le mois de Rajab afin de bien préparer le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, c'est le moment le plus recherché par le croyant. C'est ce Ramadan, bi'idhnillah, qui nous sauve. Certainement, et Allah dans sa clémence, il sait pourquoi ce mois est aussi magnifique pour nous. Certainement, nous, les autres périodes de l'année, on est tellement éloignés, mais Allah nous ramène durant le mois béni. Donc, d'un Ramadan à l'autre, on a de l'espoir qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous élève, qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah ouvre notre taqdir, qu'Allah exauce nos invocations. Mais ce mois-là, il faut le préparer avec un isti'dad. Il y a une préparation psychologique et spirituelle. Et on ne peut pas entrer dans le mois de Ramadan du jour au lendemain, changer de rythme. On ne peut pas entrer dans, entre guillemets, dans la course, dans un match sans échauffement, sans étirement, sans préparation physique, mentale, psychologique, bref, tout ça. C'est un exemple pour qu'on ait une idée. Rajab, c'est le mois par excellence où le musulman se prépare. Et l'avantage, on pourrait dire, du mois de Rajab, c'est qu'il occupe une place dans le cœur du musulman. Du musulman qui connaît, du musulman qui apprend sa religion, du musulman qui ne laisse pas les jours s'écouler comme celui qui n'a pas la foi. Celui qui n'a pas iman, il ne différencie pas janvier de février de décembre. Si, quand il y a les fêtes, Noël, Pâques, fête des mères, c'est les seules choses qui animent la vie. Mais le mu'min, quand on lui parle du mois de Rajab, immédiatement il se ressaisit. Il dit que là, je suis dans un des mois sacrés. Je suis dans un des 4 mois sacrés de l'année. Donc Allah Rabbul Izzah attend un certain comportement de ma part. Donc le croyant, il fait attention à ce qu'il regarde. Il fait attention à ses actions, à ses paroles. Il redouble de vigilance et d'assiduité. Et le fait qu'il donne considération au mois de Rajab, ça lui permet d'entrer un petit peu dans, on va dire, dans la préparation spirituelle pour le mois béni qui viendra juste après, sachant que le mois de Sha'ban, par la suite, c'est un mois qui lui ne fait pas partie des mois sacrés, mais c'est un mois qui comporte cette fameuse nuit du pardon. Donc le croyant, il se prépare aussi pour cette occasion. C'est-à-dire que depuis Rajab, Allah nous donne la possibilité de nous remettre en question. De nous remettre en question, de fixer les objectifs et de commencer à déployer les premiers efforts. Troisième point à retenir, et là c'est une action, le prophète alayhi salatu wa salam donnait de l'importance à ce mois béni par l'accomplissement de jeûnes. Dans le hadith, Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu avait demandé à Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رجب؟ Est-ce que le prophète jeûnait durant le mois de Rajab? Il a répondu Na'am wa yusharrifuhu qalaha thalatha hadith Abu Daoud. Il a répondu oui, le prophète jeûnait durant le mois de Rajab et pour lui c'était un grand honneur et il donnait beaucoup d'importance au jeûne du mois de Rajab et il l'a répété trois fois afin que la personne qui pose la question comprenne que ce mois-là doit se distinguer par le saum, par les jeûnes, comprenez les jeûnes sunan et nawafil. Donc, ça fait trois points. Et pour revenir, après il y a deux points. Quand les natijas, il y a les résultats, il y a les actions. Après, il y a un point qui nous intéresse concernant l'assiduité, comme on l'avait dit, et la vigilance. Concernant cette assiduité, cette vigilance, on a trouvé, mashallah, une parole magnifique de Ibn Abbas. Qal Ibn Abbas, radiallahu anhuma, à propos du mois de Rajab. Ja'al al-dhambi, à propos des mois sacrés d'une manière générale, et parmi ces mois sacrés, le mois de Rajab. Ja'al al-dhamba fihinna a'azam. والعمل الصالح والأجر أعظم. Allah Azza wa Jal a décrété que les péchés accomplis durant les mois sacrés sont beaucoup plus graves. Les péchés accomplis durant les mois sacrés, c'est-à-dire durant le mois de Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram et Rajab. Les péchés accomplis durant ces quatre mois, c'est beaucoup plus grave que les péchés qu'on accomplit durant les autres mois de l'année. C'est-à-dire qu'on doit faire extrêmement attention durant le mois de Rajab, de ne pas répéter nos erreurs, malheureusement, qu'on fait toute l'année. Donc, faire très attention, et c'est pour ça qu'on a dit, on peut commencer déjà par le contrôle du regard, le contrôle de la parole, et le contrôle du cœur, de l'intention, être toujours bien intentionné, jamais avoir de mauvaises pensées envers son frère en islam, ne jamais essayer de causer du tort, essayer de soigner nos paroles, nos relations avec nos proches, c'est-à-dire on évite les péchés, on fait tout ce qu'on peut pour être vigilant face aux péchés, sachant qu'un péché de le mois de Rajab, c'est un crime. On n'a pas le droit d'accomplir un péché durant ce mois, toute l'année bien sûr, mais durant ce mois de Rajab, c'est plus grave encore parce que c'est un mois sacré. Allah a décrété que les bonnes actions, mais également les récompenses durant les quatre mois sacrés ont beaucoup plus d'importance. C'est-à-dire que la bonne action qu'on va accomplir durant le mois de Rajab, elle aura une grande valeur pour Allah Azza wa Jal. Donc on doit redoubler de vigilance face au péché et on doit redoubler d'assiduité et d'effort dans l'accomplissement des bonnes actions. Maintenant, quelques pistes et quelques suggestions concernant un changement accessible, facile, qu'on peut essayer d'entamer durant ce mois de Rajab. Premièrement, on a déjà cité les exemples concernant les péchés, bien sûr, ce qu'on doit, on doit arrêter de faire, ou s'éloigner, ou faire attention, être plus vigilant. Maintenant, on doit, comme bonne action qu'on peut essayer de faire, Inch'Allah, premièrement, ça concerne la salah. On doit faire l'intention que durant ce mois de Rajab, je ne rate pas une seule salah. Et si on a la possibilité d'être proche d'une masjid, d'une mosquée, si on n'est pas au bureau ou dans un lieu de travail, on ne peut pas se déplacer, on fait l'intention que durant ce mois de Rajab, mais je commence déjà à être régulier dans la salah accomplie à la masjid, premièrement. Deuxièmement, deuxième action, toujours en rapport avec la salah, mais concernant les nawafil. C'est le moment, si ce n'est pas déjà le cas pour, alhamdoulilah, ceux qui ont été élus par Allah, c'est le moment de commencer à travailler le tahajjud, le qiyam al-layl. Le mois de Rajab, c'est le mois propice pour démarrer, pour faire l'intention, dès ce soir, que inshallah, durant ce mois de Rajab, je ne rate pas un tahajjud. À quelle heure le subh al-sadiq en ce moment? C'est tard, c'est une des. On est, hein? 5-15. On est dans une période, mashallah, totalement adaptée. Il suffit de se réveiller à 5h du matin. Oui, 5h15, c'est ça à peu près. Il suffit de se réveiller à 5h du matin. Faites vos ablutions. Faites deux unités de prière. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas déjà l'habitude de faire. Ceux qui font déjà, mashallah, 8 depuis 4h du matin, continuez, alhamdulillah, qu'Allah accepte. Mais ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ben, on essaie, à partir de ce soir, on fait le niya, de se réveiller 15 minutes avant l'heure d'habitude où on se réveille. 5h, on se réveille, on fait 2 rak'at et on demande doua dès maintenant. Ya Rab, balighna Ramadan. Ya Allah, donne-nous la possibilité de vivre ce mois béni et de le vivre avec ferveur, avec assiduité, avec les qualités de foi, avec l'engagement, avec la sincérité. Et accorde-nous l'istiqama, accepte nos doigts. C'est-à-dire, dès maintenant, on demande à Allah de nous accepter pour ce mois béni. C'est une préparation ce Ramadan. La préparation, elle commence dès maintenant. Ça fait deux actions. Troisième action, c'est celle qu'on a citée dans le hadith de Urwa qui avait demandé à Abdullah ibn Umar radiallahu anhu à propos du jeûne. On fait l'intention, dans la mesure du possible, on essaie de jeûner au maximum durant le mois de Rajab. Puis arrivera le mois de Sha'ban, on expliquera le tartib de Sha'ban. Mais durant le mois de Rajab, déjà, si on peut suivre la sunna, qui est de jeûner tous les lundis et les jeudis. Et ensuite, quand sera le 13, 14 et 15, ce qui est un peu plus difficile, on essaie de cumuler 3 jours de jeûne. Avant d'arriver 13, 14, 15, dès maintenant, on fait l'intention que durant ce mois de Rajab, je ne rate pas un jeûne des lundis et du jeudi. On fait l'intention, Inch'Allah, le plus dur, c'est le premier. Le plus dur, sauf pour ceux qui le font déjà, Masha'Allah. Mais si on n'a pas l'habitude, le plus difficile, c'est le premier jeûne. On aura mal à la tête, on aura tout un changement. Mais ça, c'est ni'ma, ça, d'avoir mal à la tête pour Allah, d'avoir faim pour Allah, d'avoir la gorge asséchée pour Allah, d'avoir les signes de fatigue parce qu'on se réveillait très tôt pour Allah. Des petits sacrifices pour Allah, ça, ça augmente la foi, ça augmente notre degré. Inch'Allah, on fait ses intentions. Inch'Allah, qu'Allah nous accepte pour vraiment donner le maximum de nous durant ce mois de Rajab. Allahumma amin. On va voir un hadith aujourd'hui, Inch'Allah. La dernière fois, on avait complété le hadith du Qiyama, où le Prophète avait vu les communautés. Et on avait vu qu'une des qualités qui distinguait les gens qui vont entrer dans le paradis sans rendre compte, c'est la confiance totale en Allah Azza wa Jalla. On a vu pas mal de récits concernant les Sahaba, à Uhud, à Ahzab, comment est-ce qu'ils ont réagi face à l'adversité, dans les moments difficiles, comment est-ce qu'on a vu leur confiance en Allah. On va voir maintenant aujourd'hui l'exemple d'un des plus grands prophètes d'Allah, Rabbul Izzah, de ce dunya, Ibrahim alayhi salam. Sans rentrer dans l'histoire, parce que sinon c'est long, juste retenir ce qui va nous aider à mieux comprendre le sens du tawakkul ala Allah, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma aydan, et en plus avec ce hadith on apprend un dhikr dans une situation particulière. An ibn Abbas radiyallahu anhuma aydan qal hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. Dans ce hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما, il cite ce verset qui est un dhikr, qui est un dua dans les situations de détresse, dans les situations là aussi d'adversité, quand des gens te veulent du mal, quand des personnes essaient de t'effrayer, de t'attaquer, de te causer du tort à toi, à tes proches, à ta famille, dans n'importe quelle situation où des makhlouqs, des créatures d'Allah te veulent du mal, tu t'orientes immédiatement vers Allah. Car le prophète alayhi salat wa salam nous a rappelé que sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal, s'ils réunissaient tous les pires des personnes, les brigands, les voyous, les sorciers, d'accord, pour te faire du tort, ils ne te feraient rien de plus que ce qu'Allah a déjà écrit dans ton taqdir. On a vu dans un hadith, je ne sais pas si c'était ici ou bien c'était peut-être à la madrasa, certainement, dans lequel, c'était à la madrasa, un verset du Coran plutôt, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous révèle lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dans lequel Allah Rabbul Izzah rappelle qu'il y a des anges qui se tiennent devant et derrière les êtres humains pour les protéger. Bi'idhnillah. C'est-à-dire qu'ils protègent les gens contre tout ce qui ne leur est pas prédestiné. C'est-à-dire que si un mal te touche, c'est qu'Allah te l'a prédestiné. C'est que tu n'as pas suffisamment demandé dua, protection contre les choses mauvaises. Et c'est pour ça que le prophète a reçu de la part d'Allah قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et entre autres pour ça qu'il a reçu Ayatul Kursi, il est bien lié à Al-Baqara, pour avoir la protection contre tout ce qui est mal. Donc si on est atteint par quelque chose de mal, c'est premièrement Allah l'a prédestiné, et deuxièmement, si on cherche un asbab, c'est peut-être qu'on n'a pas fait nous les a'mal nécessaires pour se protéger, tout comme une personne va dormir sans fermer sa porte à clé ou éteindre sa voiture et ainsi de suite. Donc, mis à part ce qui est prédestiné, ben, rien ne nous arrive sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si des gens essaient de nous faire du mal, on n'a pas à s'adresser à ces gens qui veulent du mal. On s'adresse au Seigneur des mondes, celui qui détient les cœurs de chaque créature. Et on demande à Allah Azza wa Jal, hasbunallah, on affirme que on place notre confiance en Allah Azza wa Jal et qu'Allah nous hasbuna et qu'Allah nous suffit. Et que lorsqu'on a confiance en Allah, il n'y a pas meilleur que la confiance qu'on place en Allah Azza wa Jal. Ce verset, qui est une invocation, a été lu par Ibrahim alayhi salam, hina ulqiya fin nar. Et là, on a dit qu'on ne va pas raconter l'histoire, mais lorsque le peuple d'Ibrahim alayhi salam ne voulait plus l'écouter, que le roi a décidé de faire préparer un feu ardent, tellement ardent qu'il ne pouvait même plus s'approcher pour y jeter Ibrahim alayhi salam. Jamais on n'a vu un feu aussi ardent. Et ils étaient obligés de l'installer sur une catapulte pour le jeter dans le feu. Et on connaît l'histoire où il a refusé l'aide des malaïka. Il s'est dit, il avait la conviction que c'est Allah Azza wa Jal qui va lui apporter son aide. Et là, on a un exemple de yaqin, iman yaqin des anbiya, alayhim salat wa salam. Et les savants, rahimahumullah, dans le tafsir et le muhadithin, rappellent que là, on a un exemple concret d'une situation où la vie est en danger et qu'il est qu'une question d'une poignée de secondes avant que la personne soit touchée par ce azab qu'il est en train de voir. Et dans ces moments où on est à quelques secondes du châtiment, là on voit que les prophètes étaient les gens les plus fermes, les plus éprouvés. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. C'est-à-dire qu'un être humain, comme vous et moi, Allah ne nous éprouverait jamais par des choses aussi difficiles. Ce n'est pas de notre niveau. Allah éprouve les gens en fonction de leur niveau. Et si on relit l'histoire des prophètes, alayhimus salat wa salam, ben on se rend compte que le niveau de leurs épreuves, on peut se dire que c'était presque inhumain. On peut se demander, mais astaghfirullah, c'est comme si Allah leur fait plus de mal à ces autres que ces autres créatures. Abadan, c'est pas ça. C'est qu'Allah aime ses prophètes. Et Allah relève au maximum le niveau de ibtila, le niveau d'épreuve. Regardez Moussa alayhi salam. Regardez la maman de Moussa alayhi salam. Regardez Yunus alayhi salam de Suratul Qalam, on a vu dernièrement. Regardez Ayyub alayhi salam. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un être humain ne sera atteint par une maladie aussi terrible que la maladie de Ayyub alayhi salam. Regardez les épreuves de Ya'qub alayhi salam. Tellement pleuré qu'il en est devenu aveugle. Regardez les épreuves de Yusuf alayhi salam. Et regardez les différentes épreuves de Ibrahim alayhi salam. Et cette épreuve où il est à quelques mètres de tomber dans ce feu qu'il voit, dont il ressent la chaleur, jamais il n'a failli dans sa confiance en Allah. Ça, c'est prophète d'Allah. Et à travers cette situation qui a été créée par Allah Azza wa Jal, Allah veut que ce soit une leçon pour l'humanité. La confiance en Allah, c'est comme ça. Et quand tu as confiance en Allah, Allah ne t'abandonne jamais. Donc Ibrahim alayhi salam, au moment où il va tomber dans le feu, il a dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et quelle fut la décision d'Allah Azza wa Jal « Qulna ya narukuni bardan » wa salaman ala Ibrahim. Je rajoute uniquement ala Ibrahim. Bas. C'est là qu'on voit qu'Allah, c'est lui qui détient les lois physiques. Il n'y a aucune nature qui est propre à une entité, illa bi'idhnillah. Le feu, dans notre compréhension chimique, physique, et ainsi de suite, dans les lois de la nature, le feu brûle. Toute créature le sait, les animaux le savent quand il y a un incendie, un enfant le sait, tout le monde le sait. Mais si Allah leur donne, et quand Allah Rabbul Izza veut changer la nature de quelque chose, c'est kun fayakun. Et le feu est devenu bardan, mais ce n'est pas uniquement barda. Bardan wa salam, Ibrahim alayhi salam. On a dit qu'on ne rentre pas dans l'histoire, mais Ibrahim alayhi salam dit que, de son Ibn Kathir, il est resté 40 jours de ce feu. Il a dit que je n'ai jamais vécu de jours aussi heureux que lorsque j'étais dans ce feu. Parce que ce feu n'était pas que bardan, il était salam. Et salam, c'est salama, la tranquillité, la paix. Et les ennemis, ils bouillonnent tout et ils ne peuvent même plus s'approcher. En fait, c'est eux qui sont piégés là. Ibrahim est maintenant dans une forteresse et plus personne ne peut s'en approcher. Imaginez qu'Allah Azza wa Jalla avait demandé à l'ange chargé des nuages de faire tomber la pluie. Le feu se serait éteint. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il tombe, comment est-ce qu'il tombe? Il se fait mal ou non? Allah seul le sait. Le feu est éteint, l'ennemi revient. Et l'ennemi l'attrape de nouveau. Et il le persécute d'une autre façon. Moussa alayhi salam, lorsqu'il franchit la mer avec les Banu Israël, lorsqu'il arrive au bout du chemin et que l'armée de Pharaon emprunte le même chemin et que les Banu Israël ne savent plus quoi faire, il dit mais c'était bien pour l'instant. Le match aller était top. Mais c'est au match retour que tout est en train. Au début, c'était parfait. On a traversé. On est arrivé. Mais oh Moussa, il faut refermer la mer. L'ennemi arrive. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est sunnatullah. Tadbir al-Khaliq al-Jabbar al-Muqaddir. Celui qui donne, qui ordonne tout, qui a tout préparé. Allah Azza wa Jal, si Allah Rabbul Izza avait demandé à Moussa alayhi salam de refrapper la mer, de refermer tout de suite, ça n'aurait été que partie remise. Qu'on tourne, et dans un jour, une semaine, un mois, cette armée la plus puissante au monde retrouve les Banu Israël. Banu Israël qui ne savent pas se battre. Des paysans, des esclaves, qui ne savent pas manier le glaive, ni ne savent pas c'est quoi se battre, parce qu'ils sont nés sous l'esclavage. Ils ne savent même pas c'est quoi lever la tête, se révolter. C'est pas eux de se battre contre l'armée des Pharaons. Allah Rabbul Izzah décide qu'eux aussi ils empruntent. Et là, Pharaon il dit, voyez, ça c'était un poète, un maudit ça. Ça c'était un ajib ça. Il traverse la mer et dit, voyez, la mer s'est ouverte pour moi, Pharaon. Et donc Allah décrète que Pharaon traverse avec sa fierté et son orgueil. Et lorsque toute son armée est dans la mer, c'est-à-dire ils marchent dans la mer, là Allah Rabbul Izzah demande à Moussa alayhi salam de refermer la mer et ils sont tous noyés. Et il n'y a plus un survivant. Et il était mathématiquement impossible de tuer une armée qui, selon Ibn Kathir le Tafsir, frôlait les millions de combattants. À l'époque, pas de bombe nucléaire, pas de bombe atomique. Qui c'est qui peut tuer une armée qui approche le million d'individus? Avec combien d'épées? Et les Banu Israël, comme on l'a dit, ils ne savaient pas se battre. Tadbir al-Khaliq. Allah, quand il prend une décision, c'est la meilleure à condition de placer sa confiance en Allah. Et arrivé près de la mer, au début, on retourne en arrière. Les Banu Israël, ils doutent. Et là, on voit tout de suite la différence de yaqin entre un prophète et un croyant ordinaire. Ils disent que, oh Moussa, est-ce que tu es sûr qu'Allah t'a demandé de nous amener ici? Ils doutent. Ils n'ont pas confiance en Allah. Parce qu'ils ont vu. C'est-à-dire les sens, les cinq sens, ont été imprégnés par ce qu'ils voient et cela affecte Iman Bil-Ghaib. Alors que le mu'min sur Iman Bil-Ghaib, il doit être au-dessus de tout ça. Comme Ibrahim qui sent la chaleur, il va tomber, mais il sait que son Seigneur ne le lâchera jamais. Donc là, magnifique leçon. Et deuxième partie du hadith d'Ibn Abbas, c'est lorsque le prophète était revenu de Uhud. Mais ça, on ne va pas le détailler parce que c'était déjà dans l'introduction. Lorsque les gens ont essayé de les faire peur que l'ennemi revient à Uhud, lorsqu'il y a une situation très difficile pour les musulmans, dit que lorsqu'ils étaient en train de retourner à Madinah, dit que l'ennemi, l'armée des mouchtekins revient et maintenant ils vont attaquer directement à Madinah. Ils n'ont jamais eu peur. Ils ont dit, même chose, hasbunallah wa ni'mal wakil, et ils ont obtenu l'aide d'Allah Azza wa Jalla. La grande leçon à retenir, c'est on a là deux comportements prophétiques, le comportement d'Ibrahim alayhi salam et le comportement du prophète salam avec les sahaba qui montrent que dans des situations ultimes, ils s'en remettent à Allah Azza wa Jalla. Et là, on a également un verset qu'on retient et qu'on doit lire quand on se sent en danger, quand on sent que des gens nous veulent du mal, Ben là, on doit lire ce verset. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et dans le tafsir de Surat al-Qalam, on a appris, on a revu un verset, c'est La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Verset qui avait été cité par le prophète Younus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, et que ce doua, cette invocation qui est un verset, est montée jusqu'au trône d'Allah, et que les anges l'ont entendu, et ils ont demandé à Allah d'accepter l'invocation de ton serviteur, et qu'Allah a immédiatement accepté, et a envoyé son aide pour Younus alayhi salam. Donc des versets très puissants. Nous n'avons pas besoin de formules magiques ou de tout ça. Et des fois, on cherche plein de choses. D'accord ? L'aide d'Allah, c'est dans le Coran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais dis-le avec force. Dis-le avec conviction. Dis-le d'une façon que même si le ciel, enfin pas le ciel, mais si un immeuble est en train de s'écrouler, mais avec ce doua, tu sais qu'Allah te protège. Et il te protège contre tout ce qui ne t'est pas prédestiné. On s'en remet complètement et totalement en Allah Azza wa Jal. Hada. Oubliez de mettre le chronomètre, je ne sais plus combien de temps on est en train de faire, Inch'Allah. Il y avait un troisième hadith, mais je pense que ça risque d'être un peu long. C'est combien de temps on a commencé? 20 minutes? 28 minutes. Khaira, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un hadith qui est très intéressant sur une situation. Maintenant, on voit que c'est uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été prouvé. Je vous donne juste le cas de figure. Le prophète est allongé sous un arbre. Hadith connu. Ils retournent d'une campagne et ils ont donc leurs armes. Le prophète a accroché son épée à une branche. Et là, il y a un bédouin, un ennemi, qui voit le prophète alayhi salatu wassalam allongé sous cette arme. Et il prend l'épée du prophète d'Allah. Comment ça se fait qu'il peut prendre l'épée du prophète d'Allah? Et il va, dit comment ça? Pas dégainer, c'est pas un pistolet. Il va, qui c'est qui a le mot? Quand on enlève l'épée du fourreau. Il doit avoir un terme ça. Il prend l'épée. Il se prépare, il arme, on va dire, l'épée. Et il menace le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça se fait? Comment est-ce possible qu'une personne passe le filtre de tous les sahabas, et principalement ceux qui étaient les gardes du camp, entre guillemets, ceux qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que personne ne s'en aperçoive, et qu'il arrive à s'approcher de Nabiullah, il arrive à prendre l'épée du prophète d'Allah, et qu'Allah ne l'empêche pas, et qu'il n'y a pas un ange qui l'empêche, et que les anges qui sont là pour protéger, comme on a cité le verset, ils ne font rien. Ça veut dire que c'est une situation qui a été prévue et créée par Allah Azza wa Jal. Situation d'épreuve pour mettre en avant la force de foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce soit une leçon pour l'humanité, et pour que nous aussi un jour on puisse le raconter et en tirer les leçons et comprendre quel est le natija, quel est le résultat de la confiance en Allah Azza wa Jal. Cet homme prend son épée, l'épée du prophète d'Allah, et il pointe vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, on est en train de citer le hadith, mais on verra les leçons la prochaine fois. Il dit Man yamna'uka minni, manque de respect et violence. Il dit oh, il n'a même pas dit oh Rasul, rien, il ne croit pas en Allah. Qui te protège de moi? C'est-à-dire que là, je te tue. Tu es le prophète de tous ces gens. Je te tue là. Qui te protège? Le prophète alayhi salatu wassalam nous regarde. Il dit un seul mot. Allah. La personne redemande qui te protège? Le prophète dit Allah trois fois. Et à la troisième fois, qu'est-ce qui se passe? L'épée tombe de sa main. C'est quoi? Il est devenu faible et tout? Non. C'est-à-dire, l'aide d'Allah vient avec ou sans intermédiaire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend l'épée, il dit « Qui te protège maintenant ?» On verra la suite la prochaine fois. Et les savants mettent en avant la confiance inébranlable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas une seconde n'a eu peur. Entre eux, on parle langage très clair. Quand on est, là nous protège, mais si quelqu'un vous agresse dans la rue de cette façon, vous pouvez être aussi fort, aussi costaud et tout, avec un couteau sous la gauche, comme dans les films là. Il dit la bourse ou la vie ou la mort. Je ne sais pas comment ils disent. Il ne challengera jamais à l'entendre. Comme ça. À moins que vraiment, mashallah, tu as des bases terribles en jujitsu, ainsi de suite. Mais très souvent, même les gens qui sont très formés dans des situations d'angoisse, ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Et leur force, leur technique, leur premier dan, leur ceinture, leur peignoir et tout. Tout ça, ça se transforme en bastonnade, en combat de rue. Tout ce qu'ils ont pu apprendre, même les gens qui font des trucs nobles comme le taekwondo, où ils savent détourner les coups et tout, dans les 6, il n'est pas fort mentalement, dans les situations d'adversité, la personne oublie tout et il n'y a que les poings et les pieds qui reviennent. Bataille de riz, il oublie tout ce qu'il a appris. Situation d'angoisse, on perd ses moyens. Donc, si nous on est exposé à une situation difficile, subhanallah, on cherche soit à s'enfuir, soit à frapper ou autre chose, le prophète nous donne une leçon. C'est-à-dire que c'est presque comme si on pourrait dire que la vie est entre les mains de cette personne, mais la vie est dans les mains d'Allah. Lui, c'est une connaître et un média. Le prophète nous dit que même dans une situation où la lame est près de ta gorge, c'est Allah qui décide tout. Qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre ses paroles, qu'Allah renforce notre foi, notre amour pour lui, notre crainte d'Allah, notre khashyatullah et taqwa, et qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité d'augmenter notre yaqeen et notre tawakkul, et inshallah de profiter au maximum de ce mois de Rajab, qui fait le niya de ce soir, inshallah, il fait qiyamul layl, on lève le doigt. Et par le niya, qu'Allah Rabbul Izzah donne tawfiq de le faire. Inshallah, on fait le niya également lundi, jeudi, durant ce mois de Rajab. On est assidu et peut-être par cela, notre Ramadan sera le meilleur Ramadan de notre vie. Allahumma amin. Subhan rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.